Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
L'heure est venue de retrouver Franck Ferrand au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. À mon tour, j'aimerais avoir une pensée pour notre ami Emmanuel Maubert, dont j'avais regretté le départ d'Europe 1 il y a 3 ans. Il était bienveillant Emmanuel, il était ouvert, chaleureux, tellement drôle. J'aimerais modestement lui dédier l'émission d'aujourd'hui, même si je vous avoue que celle d'hier dans les cuisines et dans la cave du Georges V lui aurait sans doute mieux convenu.
Et aujourd'hui, vous nous proposez donc une plongée au cœur de la contre-révolution.
Oui, c'est le beau dossier du Figaro Histoire qui m'a donné cette idée, un dossier consacré à la Vendée militaire. Geoffroy Caillet, le rédacteur en chef de ce numéro, est notre invité. Et nous entendrons aussi au téléphone Anne Bernet, auteur d'une histoire générale de la chouannerie. Et bien entendu, nous reviendrons sur la distinction qu'il convient de faire entre Vendéens insurgés et Chouans. Ce sont ces derniers que je vous propose de découvrir tout d'abord à travers l'épisode dramatique du débarquement de Quiberon en 1795.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Joseph sur les origines de l'agrégation d'histoire.
Volontiers, mais les Chouans sont sur le pied de guerre, ne les faisons pas attendre.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Page de littérature comme nous les aimons bien pour commencer ce récit, et la page en question est signée de Balzac dans son célèbre roman « Les Chouans » de 1829. Quelques-uns des paysans, écrit Balzac, et c'était le plus grand nombre, allaient pieds nus, ayant pour tout vêtement une grande peau de chèvre qui les couvrait depuis le col jusqu'aux genoux et un pantalon de toile blanche très grossière dont le fil mal tondu accusait l'incurie industrielle du pays. Les mèches plates de leurs longs cheveux s'unissaient si habituellement au poil de la peau de chèvre et cachaient si complètement leur visage baissé vers la terre qu'on pouvait facilement prendre cette peau pour la leur et confondre, à la première vue, ces malheureux avec les animaux dont les dépouilles leur servaient de vêtements. Mais à travers ces cheveux, l'on voyait bientôt briller leurs yeux comme des gouttes de rosée dans cette épaisse verdure. Et leur regard, tout en annonçant l'intelligence humaine, causait certainement plus de terreur que de plaisir. Leur tête était surmontée d'une sale toque de laine rouge, semblable à ce bonnet phrygien que la République adoptait alors comme emblème de la liberté. Tous avaient sur l'épaule un gros bâton de chêne noueux, au bout duquel pendait un long bissac de toile peu garni. D'autres portaient, par-dessus leur bonnet, un grossier chapeau de feutre à large bord et orné d'une espèce de chenille en laine verte, de diverses couleurs qui en entourait la forme. Voilà la description que nous donne Balzac dans ce roman dont l'action se passe sous le consulat. On est en 1799. Des paysans bretons s'arment pour le retour du roi contre la troupe républicaine du commandant Hulot dans le roman. Si les Chouans de Balzac sont évidemment des Chouans de roman, il n'en reste pas moins que la réalité nous montre une longue succession d'insurrections entrecoupées de trêves qui ont agité ces insurrections tout l'ouest de la France pendant la période révolutionnaire et notamment à Quiberon en juin 1795, puisque c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Les Chouans sont à l'époque aux côtés des émigrés, des aristocrates qui ont quitté la France, qui ont émigré, qui ont constitué hors du territoire leur propre armée, et des Anglais, bien sûr. Nous sommes exactement le 27 juin 1795, en baie de Quiberon, à Carnac. Il règne une chaleur caniculaire. Au moins 20 000 personnes, des familles entières, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, sont impatients et euphoriques. Ils sont vêtus de guenilles, ils portent des sabots de bois rembourrés de paille, leurs armes sont en mauvais état. Il n'y a pas que des paysans, la garde municipale d'Auray fait également partie de cette foule, et derrière eux, des carrioles de fortune chargées de provisions pour plusieurs jours, et la clameur se fait bientôt plus forte, parce que certains ont aperçu des chaloupes qui avance maintenant sur l'horizon, qui avance sur la mer vers la plage de Carnac. Il s'agit d'une flotte composée de plusieurs bateaux. Cette flotte est tout simplement spectaculaire. Il y a une frégate de 44 canons, la Pomone, suivie de trois vaisseaux de ligne, la Robuste, 74 canons, le Tonnerre, également l'Étendard, un petit peu plus petite, et puis cinq autres frégates, et ce n'est pas tout, deux lougres, deux cutters, 10 chaloupes canonnières, 97 bâtiments de transport, bref, une véritable armada qui se rapproche. À l'intérieur, les bateaux sont chargés de 30 000 fusils, 12 canons, des centaines de barils de poudre, des munitions, etc. 2 millions de livres or, 10 milliards de faux assignats sont également à bord, et puis des uniformes d'infanterie par milliers, des uniformes de cavalerie, même 60 000 paires de souliers. À bord, 5000 émigrés répartis en 5 régiments, sans oublier les prisonniers républicains, dont le recrutement posera des problèmes plus tard, on y reviendra. N'oublions pas l'important personnel qui fait partie du voyage, hein, des valets, des perruquiers, des médecins, des chirurgiens, etc. 10 mois de préparation pour arriver à constituer cette armada. Tout a commencé en septembre 94 quand le comte de Puisaye, donc un ennemi de la République, passé dans la clandestinité, arrive en Angleterre pour convaincre les Britanniques d'un débarquement des Anglais et des immigrés. Débarquement appuyé, soutenu par la chouannerie locale, avec comme objectif de marcher sur Rennes, sur Nantes. Le plus jeune frère du défunt roi Louis XVI, le comte d'Artois, considéré par les royalistes comme leur lieutenant général, pourrait arriver alors dans la suite pour prendre la tête de tout l'Ouest insurgé. Ce serait le début de la contre-révolution en marche. La traversée d'une dizaine de jours n'a pas été de tout repos à cause de la discorde entre Joseph de Puisaye et le maréchal de camp d'Hervilly, qui est un homme autoritaire, assez nerveux, hein, l'ancien commandant de la garde nationale. Évidemment, tout ça crée quelques étincelles. Les deux hommes se disputent sur le déroulement des opérations, et ça va retarder le débarquement. L'expédition n'est pas au complet, puisque d'autres navires chargés d'émigrés français en provenance d'Allemagne et des Provinces Unies doivent arriver dans la foulée. Vous imaginez la joie des chouans, leur exaltation, tout ça est extraordinaire. On les entend qui chantent des cantiques, qui poussent des cris. Les émigrés royalistes arrivent enfin, ils vont libérer la Bretagne. Et à partir de là, ce sera la route vers la libération de l'ensemble du territoire, qui à l'époque, bien entendu, est sous l'égide de la République. Tout a été préparé pour accueillir les sauveurs, comme les appellent les chouans, dans les meilleures conditions. On s'est emparé de Carnac, au sommet de la butte Saint-Michel qui domine les terres plates qui entourent, vous savez, c'est une région, c'est la région des alignements et des mégalithes, bien entendu. Une chemise a été plantée en guise de drapeau blanc par le chevalier de Tinténiac, qui est à la tête des chouans. La chemise n'est pas d'un blanc immaculé, elle est sale. Est-ce que c'est en soi un funeste présage ?
Manœuvre sur Europe 1 de Duvernois. Restez avec nous, les chouans. C'est ce que vous propose de découvrir Franck Ferrand cet après-midi jusqu'à 15h dans Au cœur de l'histoire. Et la suite, c'est dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de la contre-révolution avec ces insurgés royalistes qui étaient les chouans. Alors il y a un instant, vous nous avez parlé de cette chemise plantée en guise de drapeau blanc, une chemise qui était plutôt grise que blanche. Alors est-ce que cette saleté est un mauvais présage pour la suite ?
Disons surtout que très vite, les chouans vont comprendre l'étendue du malentendu, l'expression n'est pas élégante, mais ils vont comprendre qu'il y a un problème. Les émigrés qui débarquent restent assez insensibles à l'accueil tellement chaleureux qui leur avait pourtant été réservé. Pour eux, les chouans sont des sauvages mal dégrossis, disons les choses. Au moment où les fusils anglais sont distribués au champ, une bagarre éclate avant que Georges Cadoudal, un des maréchaux de camp de l'armée catholique et royale du Morbihan, ne vienne remettre de l'ordre. Les chouans et les émigrés ne se fréquentent pas, si vous voulez. Le lendemain, lors de la messe solennelle célébrée pour l'avènement de Louis XVIII, les Chouans sont massés pour une cérémonie en plein air sur la plage, tandis que les émigrés se sont installés dans une église pour suivre leur propre office. On ne mélange pas les torchons et les serviettes, si vous me passez l'expression. Malgré la mésentente des deux camps, il ne faut pas perdre de temps, surtout que dans le camp d'en face, celui des Républicains, des Bleus, Hoche est en train d'organiser ses troupes. Le comte de Puisaye rédige une proclamation. « Français, au nom de votre roi et de vos princes légitimes, nous venons avec vous, avec des paroles, nous venons pardon, vers vous avec des paroles de paix. » Que ceux qui persistent obstinément dans l'exercice d'un pouvoir usurpé prouvent en le rendant aux légitimes propriétaires, j'aime bien cette expression incroyable, que leur profession de modération et de justice est sincère et qu'ils ne sont pas complices des crimes qu'ils poursuivent. Et vous, généraux, officiers et soldats qui, fatigués d'être les instruments de l'oppression et du crime, avez refusé d'être les bourreaux de vos frères, vous qui, au moyen de la correspondance récemment établie entre nous, avez appris à apprécier nos sentiments, comptez sur notre parole et venez prendre dans nos rangs les places qui vous sont offertes. J'aime bien ce genre de proclamation qui nous paraît quand même assez lunaire. 6 divisions de l'armée catholique et royale du Morbihan, dont une donc commandée par Cadoudal, sont réunies en 3 brigades. Ces brigades sont commandées par Vincent de Tinténiac, Bois Berthelot et le prêtre de Vauban, qui est l'arrière-petit-neveu du maréchal, bien entendu. Et là, à partir de là, on va dire que c'est une véritable cascade d'erreurs. D'abord, Puisaye, le lieutenant général de l'armée catholique et royale de Bretagne, d'Hervilly, qui est à la tête d'une des unités de l'armée des émigrés, sont incapables de s'entendre. Ces bisbilles dont je faisais mention tout à l'heure vont se développer et vont même s'accentuer avec le temps, ce qui fait que les opérations prennent du retard. On réussit néanmoins à s'emparer le 3 juillet du fort de Penthièvre, qui dégage le passage vers la presqu'île de Quiberon, et à déloger 300 soldats républicains qui occupaient ce fort et qui vont donc se joindre à l'armée royaliste. Et encore, d'Hervilly et Puisaye se sont disputés une fois de plus pour savoir qui serait le premier à entrer dans le fort. Le comte Joseph de Puisaye, qui est très anglophile, va d'ailleurs hisser le drapeau britannique sur le fort aux côtés des lices de la royauté française. Vous imaginez la colère des officiers bretons. Les républicains vont pouvoir, à partir de là, lancer la contre-attaque. Ils sont quand même 13 000 sur place. Les Chouans résistent, mais ils ont besoin de l'aide des émigrés. Or, il va falloir attendre 3 jours pour que Puisaye et d'Hervilly élaborent enfin un plan d'attaque avec 4 régiments soutenus par 5 000 Chouans. Les régiments sont rassemblés devant un village qui est, alors là, vraiment à l'entrée de la presqu'île de Quiberon, hein, qui, vous l'aurez compris, est l'enjeu de cette affaire, le village de Sainte-Barbe. Mais contre toute attente, d'Hervilly va ordonner le repli. Il s'engouffre dans la presqu'île de Quiberon, il préfère attendre l'arrivée des Anglais. À ce moment-là, il n'y a donc plus d'émigrés pour combattre. Les Chouans se retrouvent seuls. Cadoudal est fou de rage. « Ah, les monstres d'émigrés » hurle-t-il. « La mer aurait dû les engloutir avant qu'ils n'arrivent ici. » Pendant ce temps-là, raconte Anne Bernay, les Chouans se font tuer pour laisser les civils se mettre à l'abri sur la presqu'île, à la fureur du comte d'Hervilly qui aimerait leur en interdire l'accès. Ce serait d'ailleurs peine perdue, ces gens terrorisés bousculent tout sur leur passage, certains escaladent même à main nue les murailles du fort de Penthièvre. Hoche n'a plus qu'à se frotter les mains, si je puis dire. Les généraux de la République en face sont satisfaits de tous ces désordres. Il écrit d'ailleurs, le général Hoche écrit au général Chérin, « Les anglo-émigrés chouans, oui, ils sont 3, ainsi que des rats dans une ratière enfermés à Quiberon où l'armée les a bloqués, j'espère que dans quelques jours, nous en serons quittes. » À partir de là, les positions clés de la presqu'île de Quiberon sont perdues pour l'armée royale. Hoche s'établit solidement à Sainte-Barbe. Il utilise les retranchements des Bretons. Il reçoit des renforts en vivres, en armes, en hommes. Donc évidemment, la République, elle, peut fournir constamment des renforts qui arrivent de l'intérieur du territoire. Dans la matinée du 7 juillet, les lignes des Chouans sont percées. Carnac est prise et dans la nuit du 7 au 8 juillet, les Blancs, comme on les appelle face aux Bleus, les Blancs échouent à reprendre cette position clé, hein, cette position de Sainte-Barbe. Cadoudal pense qu'il faut agir vite, c'est la dernière chance pour espérer se débarrasser des Républicains qui déjà sont devenus très nombreux. Il propose d'attaquer Hoche sur ses arrières avec deux détachements de 3500 hommes chacun. Hoche et ses bleus vont se retrouver assiégés, coincés entre les deux armées. Avec l'apport des insurgés, Cadoudal espère encore disposer de 30 000 hommes. Personne ne va s'opposer à ce plan de la dernière chance. La question qui se pose évidemment, c'est de savoir si ce plan peut réussir.
Est-ce que ce plan va réussir? La suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Restez avec nous. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, une émission consacrée à la contre-révolution avec les Chouans. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, nous sommes au cœur du débarquement de Quiberon en 1795, que vous nous racontez, Franck Ferrand, avec les Chouans et ce fameux plan de Cadoudal. Alors, est-ce qu'il va réussir ce plan?
Alors, dès le matin, 3h du matin, en pleine nuit, hein, le 16 juillet 1795, donc, il fait très lourd, faut imaginer un temps orageux, le comte de Vauban et 1500 Chouans arrivent sur la plage de Carnac. Il tire une fusée rouge pour signaler que l'opération s'est bien déroulée. Et là, c'est le signal, donc sur trois colonnes, dans la nuit, qui est encore très très noire, l'armée royale avance, 5000 hommes, le régiment d'artillerie avec eux, ils arrivent devant les avant-postes républicains, le lieutenant général de l'armée catholique de Bretagne, donc Joseph de Puisay, croit entendre une fusillade derrière Carnac, du côté de Pleurmel. Tout le monde est convaincu que c'est Tintignac, qui a le maréchal de camp royaliste, hein, qui a réussi à la tête d'une des divisions de Chouans. On commence à crier « Vive le roi, vive le roi !» Sauf que Tintignac n'est jamais arrivé à Pleurmel, que Vauban a tiré en vérité une seconde fusée pour annoncer la présence ennemie et que cette fusée, personne ne l'a vue. Parmi le bruit des vagues, nous dit Anne Bernay, celui de la fusillade, les hennissements des chevaux et les cris des hommes qui des deux côtés hurlent pour se donner du courage, aucun des royalistes n'entend les ordres donnés par les officiers républicains et nul ne réalise en voyant soudain le général Humbert reculer qu'il ne plie pas, mais qu'il se replie stratégiquement afin de découvrir les batteries républicaines dissimulées par les retranchements. Vous imaginez, les avant-postes d'Humbert se sont repliés sur une ligne de défense, les Blancs se sont lancés à leur poursuite, et ça c'était un piège, il y a 20 canons qui les attendent. Et c'est un véritable carnage. On va bientôt se battre à portée de fusil. Au bout de 4 heures, les derniers royalistes se replient vers le fort de Penthièvre. 2000 blessés ont dû être abandonnés. Presque tous les chefs ont été tués. Dans les ombres de la nuit tombante, nous dit Anne Bernay, s'élevaient les gémissements et les appels au secours des blessés abandonnés sur le champ de bataille. Et puis, ils s'éteignirent. Systématiques et minutieux, les pillards achevaient les mourants, bleus et blancs, confondus, pour les trois guinées qu'ils pouvaient avoir en poche, pour une alliance, une croix de Saint-Louis, une chevalière, pour la solde du mois pas encore dépensée, pour un sabre à poignée d'argent ou de vermeil, pour des pistolets à crosse de nacre, pour des bottes à peu près neuves, parfois pour rien du tout. Pendant ce temps, Hoche prépare l'offensive sur la presqu'île de Quiberon. Il est aidé par trois hommes qui ont capitulé le 6 juillet, se sont enrôlés dans l'armée royale avant de déserter. Le plan de Hoche est simple, s'emparer du fort de Penthièvre avec différents détachements. Il ordonne d'égorger tous les ennemis présents, de les passer à la baïonnette. L'attaque est fixée dans la nuit du 19 au 20 juillet et à 1h du matin, le 20, l'offensive est donc lancée. En plein orage d'ailleurs, il tombe des trombes d'eau. En face, 4000 émigrés et Chouans couverts par les tirs des navires britanniques qui défendent le fort. Mais Hoche sait que de nombreux soldats de l'armée des émigrés sont des républicains enrôlés de force. Je vous en ai parlé tout à l'heure de ces prisonniers qu'on a enrôlés, qu'on a vaguement armés et sans se soucier de leur véritable motivation. Au début, c'est vrai, les Bleus sont en difficulté. Les tirs violents des batteries royalistes font leur effet. Mais les régiments royalistes sont surpris, en vérité, par cette attaque en pleine nuit. Beaucoup ont paniqué, se désorganisent face à des colonnes républicaines parfaitement en ordre. Une partie des Bleus contournent le fort du côté de la mer et escaladent les murailles du fort, à ce moment-là, certains vont retourner leurs armes, certains de ces prisonniers dont je vous parlais, retournent leurs armes contre leurs camarades, contre les royalistes. Le 21 juillet à 5h, alors que le jour se lève, les couleurs du drapeau républicain, le bleu, le blanc, le rouge, vont flotter sur ce fort de Penthièvre qui donc est tombé. Joseph de Puiset fuit avec ses hommes vers l'océan où se trouve la flotte anglaise, mais le réembarquement se fait dans une panique terrible. On se bouscule, on crie partout parce que les bleus approchent pendant ce temps-là. Ils ouvrent déjà le feu sur l'entrée du port. Les mauvais nageurs vont se noyer, les embarcations se remplissent vite, elles manquent constamment de chavirer et par peur de la surcharge et de la noyade, certains vont être obligés Ils vont en tout cas trancher au sabre les poignets de ceux qui s'accrochent tant bien que mal aux chaloupes. En tout, 1800 émigrés échouant seront néanmoins réembarqués, seront sauvés par les Anglais. Le 21 juillet à 11h, Charles de Sombreuil, un émigré de 25 ans qui est arrivé quelques jours plus tôt avec 1500 hommes recrutés essentiellement aux Pays-Bas et en Allemagne, Sombreuil capitule après avoir mené les ultimes combats face à Hoche. Sombreuil croit le malheureux en toute bonne foi parce qu'il regarde comme une capitulation parfaitement valide sauver ses compagnons d'armes. Il l'a expressément fait préciser, non seulement les Chouans mais également les émigrés seront traités en prisonniers de guerre. C'est la promesse de la vie pour tous. Tous excepté Sombreuil lui-même. Eh bien, en vérité, sur 6200 et quelques prisonniers, 750 rebelles, aux yeux de la République bien sûr, des émigrés comme des Chouans, mêlés cette fois, 750 vont être fusillés. Bonjour Geoffroy Caillet, merci beaucoup d'être avec nous. Alors nous allons feuilleter ce numéro passionnant du Figaro Histoire et nous allons tout de suite faire la distinction entre Chouans et Vendéens.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi pour cette émission consacrée à la contre-révolution, une émission en partenariat avec le Figaro Histoire, vous recevez Franck Ferrand, Geoffroy Caillet, rédacteur en chef du Figaro Histoire, avec le numéro 26 qui sera en kiosque demain et qui est consacré à la Vendée, l'épopée des géants, anatomie d'une révolte de la répression au génocide.
Et ce numéro, nous l'avons déjà entre les mains. Nous, ça,
c'est une exclusivité.
Et oui, ça c'est l'avantage. Et parmi les beaux articles de ce grand dossier spécial, il y a un article de décryptage de Philippe Maxence pour bien faire la distinction, Geoffroy Caillet, entre Chouans et Vendéens, qui tous sont des contre-révolutionnaires de l'Ouest, mais ne viennent pas vraiment de la même région et ne combattent pas vraiment de la même façon.
Oui, les Chouans, ce sont essentiellement les contre-révolutionnaires de l'Ouest qui sont en Bretagne. Et ils sont donc au nord de la Loire, sur la rive droite, alors que les Vendéens se situent tous dans la Vendée militaire, c'est-à-dire le département de la Vendée et une partie des départements voisins.
C'est-à-dire que la Vendée d'aujourd'hui est toute petite par rapport à ce qu'on appelle la Vendée militaire.
Oui, la Vendée militaire, ce sont quatre départements, l'essentiel de la Vendée actuelle, une partie de la Loire Atlantique, alors inférieure, une partie du Maine-et-Loire, une partie des Deux-Sèvres. Et les Vendéens ne vont franchir la Loire, on en parle au mois d'octobre 93. Et là, une jonction avec les Chouans va se faire au moment de la virée de Galerne.
Exactement. Et évidemment, pour la période dont je parlais, moi, à l'instant, les distinctions se font de plus en plus difficiles à effectuer, bien entendu, puisque à partir du milieu des années 1790, on est dans les tout derniers combats avec beaucoup de fusions. On en parlera, on en dira un mot tout à l'heure. C'est Anne Bernet qui a publié chez Perrin une passionnante histoire générale de la chouannerie. C'est un gros pavé dans lequel tout est expliqué. Et il se trouve que nous avons la chance d'avoir Anne Bernet au téléphone. Bonjour Anne Bernet.
Bonjour.
Merci beaucoup de vous rendre disponible pour nous parler cet après-midi. Alors vous avez consacré un de vos chapitres à ce que vous appelez la ratière justement, et c'est cette affaire dont je viens de parler, c'est cette affaire assez pitoyable de Quiberon. On a l'impression d'une très grande désorganisation des émigrés et des Chouans face aux armées du général Hoche.
C'est une désorganisation totale, vous l'évoquiez à l'instant. D'Hervilly a été blessé mortellement. Il mourra à Londres quelques semaines plus tard, puisque lui a pu rembarquer. Puiset a lâchement, il n'y a pas d'autre mot, lâchement pris la fuite en abandonnant le commandement des troupes au jeune comte de Sombreuil, qui lui-même était arrivé l'avant-veille, et qui donc ne connaissait ni le terrain ni les troupes. Et pour dire les choses telles qu'elles sont, En ce 21 juillet 1795, ni les émigrés ni les chouans ne sont plus commandés.
C'est ça, hein, vraiment, on a une impression d'une forme quasiment d'anarchie en fait. Et qu'en est-il du frère de Louis XVI et du tout nouveau roi Louis XVIII pour les royalistes, c'est-à-dire du comte d'Artois, qui devait débarquer, qu'on n'a pas vu en vérité?
Le comte d'Artois, lui, est resté à bord d'une des frégates anglaises, le Jason, et devant la mauvaise tournure que prend l'affaire, l'amiral anglais, avec un certain bon sens, va absolument refuser de le laisser débarquer. En fait, le comte d'Artois débarquera quelques jours plus tard, après la reddition de Quiberon, à l'île Dieu, qui, elle, a été occupée directement par les troupes britanniques. Et là va se situer un épisode qui est resté longtemps obscur. On a accablé le comte d'Artois de tous les maux, on l'a traité de lâcheté, on a dit qu'il s'était dérobé. En réalité, le comte d'Artois va essayer de faire la liaison avec Charette. Cette fois, on n'est plus en Bretagne, on est en Vendée. Il va essayer de faire la liaison avec Charette et cette liaison ne sera jamais établie. En fait, ce qu'on a longtemps perdu de vue, c'est l'extrême efficacité des services de renseignement militaire républicains. Ce qui veut dire que les émissaires que le comte d'Artois va envoyer à Charette et ceux que Charette essaiera d'envoyer à l'Île-Dieu auprès du comte d'Artois n'en parviendront jamais au but. Autrement dit, les missives dont ils étaient porteurs tomberont aux mains des républicains qui auront beau jeu à ce moment-là d'envoyer à Charette un prétendu marquis de Grignon, qui n'a jamais existé, qui se présentera comme étant l'envoyé du prince au moment où Charette a rallié un maximum d'hommes où il pourrait vraiment devenir dangereux. Ce faux marquis de Grignon va se présenter à Charette et lui annoncer, ce qui est faux, que le prince a renoncé à débarquer.
C'est une guerre d'intoxication en fait, c'est-à-dire que d'un côté on fait croire à Charette que le comte d'Artois ne viendra pas et d'autre part on fait croire au comte d'Artois que Charette n'est pas très intéressé par sa présence en fait.
Précisément.
C'est assez extraordinaire ça, vous avez découvert ça dans le cadre de vos propres recherches en fait, il faut le dire.
Oui, alors j'ai dû agir par recoupement, j'en parlais qu'à un officier de service de renseignement, je disais « Mais pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas de traces ?» Personnellement, si j'avais réussi une intox pareille, il m'a répondu en riant « Parce qu'on n'avait jamais de traces écrites de ce genre d'opération. »
Par définition. C'est d'ailleurs ce qui pose tant de problèmes dès qu'on est dans les opérations spéciales. Les historiens sont un peu démunis. Vous avez appelé votre ouvrage, vous l'avez intitulé « Histoire générale de la chouannerie ». Or, vous passez de nombreuses pages à nous expliquer qu'il y a plusieurs chouanneries, en quelque sorte. Hein.
Exactement. En fait, je ne suis pas responsable du titre de l'ouvrage. Comme très souvent, ça, ce sont les joies des maisons d'édition. Il aurait fallu effectivement, pour être complet, parler d'une histoire générale des chouanneries. Car il y a plusieurs chouanneries, d'abord échelonnées dans le temps, entre 1792 et 1800, et même 1804. Et par ailleurs, des chouanneries dispersées territorialement. Vous avez évoqué la chouannerie bretonne, mais il conviendrait de parler de la chouannerie du Maine qui est antérieure, de la chouannerie normande qui surviendra un peu plus tard, et même de la chouannerie tourangelle qui est bien plus modeste mais qu'on n'évoque jamais.
Quels sont les liens entre ces mouvements et les mouvements vendéens de la même époque ?
À l'origine, quoi que ce soit là encore un point controversé, il y a la volonté du marquis de la Rouërie en 1791 de fédérer dans l'Ouest l'ensemble des oppositions à la Révolution. Mais la trahison du docteur Cheftel, l'un des affidés de l'association bretonne du marquis de la Rouërie, fit échouer complètement le plan. Tant et si bien que les différents affidés de l'association bretonne sont rentrés chacun dans leur coin, ne se sont plus contactés, se sont perdus de vue, d'ailleurs beaucoup ne se connaissaient pas, mais on peut supposer à bon droit que la plupart des grands chefs chouans et des chefs vendéens étaient à l'origine des affidés du marquis de la Rouërie. Cela dit, ils ne reprendront le contact entre eux qu'à partir de la virée de Galerne, après la défaite de Cholet.
Nous allons en parler dans un instant.
Et à ce moment-là aura lieu pour la première fois une véritable jonction entre Chouans et Vendéens.
Voilà. Merci beaucoup Anne Bernet. Je rappelle le titre que Perrin a donc donné à votre ouvrage, Histoire générale de la chouannerie. Merci beaucoup. Alors, dans un instant, si vous le voulez bien, Geoffroy Caillet, nous allons revenir sur un certain nombre de ces aspects et en nous concentrant, bien entendu, sur la Vendée. Il faut dire que ce numéro, ce grand dossier spécial du Figaro Histoire, c'est le numéro 26 hein, du Figaro Histoire, ça fait quand même 4 ans qu'existe ce beau magazine. Votre dossier spécial est lié à l'inauguration d'une nouvelle attraction du Puy du Fou.
Oui, c'est le dernier panache, le spectacle que le Puy du Fou a ouvert le 2 avril. Un spectacle absolument étonnant que j'ai eu la chance de visiter et qui retrace l'épopée de Charette, un des chefs vendéens les plus connus et dont l'histoire en particulier, peut-être à cause de son tempérament tout à fait extraordinaire.
Et singulier, ça.
Tout à fait singulier.
C'était le seul contre-révolutionnaire que Napoléon admirait beaucoup.
Exactement. Napoléon lui a rendu un hommage appuyé et le Puy du Fou a fait la même chose dans ce spectacle magnifique.
Eh bien, moi, je n'ai pas encore vu le spectacle du Puy du Fou. J'ai hâte de le voir pour tout vous dire, mais je comprends mieux le nouvel engouement pour la contre-révolution qui quand même a été pendant très longtemps un sujet laissé complètement de côté. C'est le parent pauvre de l'historiographie française. On peut dire que depuis quelques mois, depuis quelques années, les choses sont en train de changer.
Extrait de la bande originale du film Les Chouans avec, entre autres, à l'affiche de ce film, Jean Marais. Restez avec nous sur Europe 1. Franck Ferrand revient dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, nous parlons de la contre-révolution avec, entre autres, Les Chouans et votre invité, Geoffroy Caillet, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le Figaro Histoire numéro 26 qui sera en kiosque demain, le 2 juin, avec ce titre « Vendée, l'épopée des géants, anatomie d'une révolte de la répression au génocide ».
L'épopée des géants, voilà un titre qui va faire un peu de bruit à mon avis, Geoffroy Caillet, je vous le dis tout de suite parce que je parle d'expérience. Et alors d'autant plus que sur la couverture même du numéro, vous avez appelé ça « Anatomie d'une révolte de la répression au génocide ». Et je vois que sur Internet, nos éditeurs sont en train de débattre âprement de ce terme « génocide ». Ça c'est toute une école historique, mené par Reynald Secher, et que nous avons déjà eu l'occasion de recevoir ici dans cette émission, et qui voudrait faire reconnaître le qualificatif de génocide pour ce qui s'est passé au moment des guerres de Vendée.
Oui, c'est une notion juridique, le génocide qui était fixé dans la résolution adoptée à Nuremberg en 1948 et qui a été adaptée dans la législation française en 2004, puisque l'article 211.1 du Code pénal indique qu'il s'agit de l'extermination d'un groupe ethnique, racial ou religieux ou tout autre critère arbitraire en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle. La Vendée répond à cette catégorie puisque le plan est avéré par divers mentions qu'on a du comité de salut public de la Convention, de déclaration de généraux républicains, et puis aussi parce que, même si on peut dire que le peuple vendéen n'existait pas en 1793, il faut plutôt se poser la question de savoir ce que les Bleus entendaient par Vendéens pour les exterminer. Et les Vendéens, c'était pour les républicains, tous ceux qui étaient jugés inassimilables à l'opération de renouveau, de régénération visée par la Révolution. Oui, et la seule solution, c'était la mort.
Ça dit bien donc d'un conflit idéologique. C'était d'ailleurs dans ses racines même, dans son origine même, raconté par Philippe Pichot-Bravard dans votre numéro, dans un article qui s'appelle « Il était une fois dans l'Ouest », où l'on revit les origines de cette révolte. Comment se sont levés et pourquoi se sont levés les Vendéens et les Chouans d'ailleurs?
Il y a en gros deux raisons. La première, c'est un ensemble de conditions de vie qui se sont dégradées depuis 1789 pour toute la France. Les impôts, évidemment, les décrets incessants qui pleuvent sur les fonctionnaires municipaux, les officiers municipaux qui doivent les faire appliquer, le suffrage censitaire qui a écarté 40% des hommes des assemblées électorales. Mais la raison la plus importante, c'est la politique antireligieuse menée par la Révolution depuis 1789.
Ça, c'est le tas de poudre, si je puis dire, sur lequel va être craquée une étincelle, une allumette, qui est la question de l'enrôlement en fait, hein, c'est-à-dire la levée en masse.
Oui, la politique anti-religieuse, c'est la constitution civile du clergé, les prêtres réfractaires, et tout ça accumule une très grosse colère en France et particulièrement en Vendée, où les prêtres jureurs qu'on envoie pour remplacer le clergé réfractaire est absolument expulsé par les habitants. Mais l'étincelle, c'est effectivement cette levée en masse que la Convention décide fin février pour envoyer 300 000 hommes se battre sur les frontières du Rhin contre les Prussiens. Évidemment, les Vendéens n'ont absolument pas envie de faire partie de leur rang.
Ce qui rend ce chapitre de notre histoire tellement passionnant, c'est qu'il est au cœur même de la querelle idéologique centrale française et qu'il a failli, enfin ces insurrections-là de l'Ouest, ont bien failli faire basculer la République, la toute jeune République. On peut dire que la Convention nationale a eu très peur à certains moments. C'est facile de réécrire l'histoire après coup et de dire « Oh, bah, c'est une insurrection qui a été matée dans le sang, certes, mais c'est une insurrection qui a bien failli tout renverser, en l'occurrence. »
Exactement. La Vendée, c'est d'abord, les trois guerres de Vendée, ce sont d'abord 9 mois d'échecs complets pour la Convention.
Mais c'est ça.
Puisque, une fois que 600 paroisses s'embrasent au mois de mars et prennent les armes, la Convention se trouve acculée et la première bataille rangée, qui est celle du 19 mars, menée par le général de Marsay, est une défaite pour les troupes républicaines. De là, un engrenage politique qui va devoir permettre à la Convention de réduire cette opposition vendéenne qui se fait très virulente jusqu'au mois d'octobre.
Et c'est après l'été que les choses commencent à basculer. Et au mois d'octobre, il y a notamment la fameuse défaite de Cholet. Ça, c'est le point d'achoppement, en quelque sorte. C'est à ce moment-là que les choses se mettent à basculer.
Oui, c'est le vrai, véritable point de retournement. Ce qui s'est passé depuis, c'est que fin septembre, l'armée de Mayence est arrivée en Vendée, avec à sa tête des officiers généraux expérimentés, valeureux, il faut le reconnaître, comme Kléber. Et c'est cette pression militaire qui va prendre les Vendéens en traître, d'autant que les chefs vendéens ne sont pas unis entre eux. Et la bataille de Cholet va être le retournement absolu. Hein. Kléber dit, les Vendéens se battaient comme des tigres et nos soldats comme des lions. La défaite va être absolument terrible. Le général de Lescure va y mourir, le général Delbé va être blessé, et à partir de là, tout va commencer à aller de mal en pis.
Quand on feuillette les papiers du comité de salut public et du comité de sûreté générale à Paris, on se rend compte qu'en vérité, les Vendéens ne sont jamais considérés comme des adversaires à part entière. Ce sont des ennemis considérés comme des brigands, au mieux. Et on l'a vu, et vous l'avez dit, dans quelques cas, dans certaines dépêches, ce sont carrément des personnes à exterminer, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas, on ne peut pas parler d'une guerre, en vérité. Il s'agit bien d'une guerre civile, et plus exactement même d'une guerre de répression d'un nouveau régime, celui de la Convention nationale, contre des paysans insurgés, en fait. C'est ça ce qui se passe. Comment ont-ils trouvé leur chef, ces paysans ?
Alors, au départ, les chefs, ils ne les avaient pas sous la main. Alors, il y a eu quand même Jacques Catelineau, hein, qui est colporteur au pain en Mauges, en Anjou, qui est poussé par ses pairs pour prendre la tête de la petite troupe qui se forme. Mais rapidement, les Vendéens se rendent compte que ça ne suffit pas, parce que Catelineau, colporteur, ne connaît pas bien la technique de la guerre. Et il faut des chefs de métier. Et c'est là où les Vendéens vont aller rechercher d'anciens officiers, Charette, officier de marine, Lescure, Delbé, La Roche-Jacquelin, et leur demander de prendre les armes. Et ça n'est pas du tout évident au début, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire en disant que la noblesse était acquise à la cause vendéenne dès le début. Ces chefs se font prier, hein, et parfois même on doit les menacer pour qu'ils acceptent de prendre la tête de ce qui deviendra les armées vendéennes.
Après la défaite dont nous parlions, il va y avoir ce qu'on appelle la virée de Galerne. Il faut expliquer ce que c'est que cette virée de Galerne, qui est une des grandes épopées de l'histoire de France, même si c'est une épopée qu'on a mis longtemps à découvrir ou à redécouvrir.
Oui, alors après la bataille de Cholet, le 17 octobre, les Vendéens en panique, parce qu'ils sont décimés, décident de franchir la Loire à Saint-Florent-le-Vieil. Le général de Bonchamp accorde sa grâce à 5000 prisonniers républicains.
Ce qu'on appelle le pardon de Bonchamp.
Qui est en fait une grâce militaire donnée à 5000 prisonniers républicains qui ne seront pas passés par les armes. Mais la Convention décide qu'on ne doit absolument pas parler de cette grâce, puisque on n'a pas de cadeau à faire aux Vendéens. Il faut vraiment être naïf comme ces pauvres soldats bleus pour croire qu'on ait voulu les graciers. Et c'est ce que Reynald Séché appelle l'acte fondateur du mémoricide. À partir de là, on ne parlera pas de ces événements. Et les chefs vendéens se déchirent sur la conduite à adopter. Charette n'est pas pour franchir la Loire. Les autres, La Roche-Jacquelin en tête, pensent que ça vaut la peine de tenter le coup parce que On dit que les Anglais tentent un coup sur les côtes normandes et que rejoindre la côte permettrait aux armées vendéennes de l'emporter sur les républicains. Donc c'est une colonne de 80 000 Vendéens, hommes, femmes, enfants, qui traversent la Loire à Saint-Florent et qui montent au départ de façon victorieuse vers Granville, vers la Normandie. Mais arrivés devant Granville, les Anglais ne sont pas là. Les pauvres couleuvrines, hein, les petits canons d'artillerie...
C'est la répétition générale de ce qu'on va vivre à Quiberon deux ans plus tard.
Exactement. C'est le premier drame dont Quiberon sera le deuxième et ultime. Les Vendéens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas prendre la ville, qui est très déterminée à résister, que les Anglais ne les aident pas. Et donc ils n'ont plus qu'une solution, malgré l'appoint des troupes chouannes, c'est de faire chemin arrière et de se retourner vers la Loire. Malheureusement,
ça tourne à l'exode, au mauvais exode.
Ça tourne au très mauvais exode, puisque les républicains les attendent. Et là, ça n'est pas une série de batailles rangées, hein, comme on le croit parfois, mais véritablement une série de massacres, notamment au Mans, où les femmes, les enfants sont passés par les armes, on les affame, ils sont en plus victimes de maladies, et tout se termine dans le sang à Savenay le 23 décembre. Le général Westermann explique qu'il a bien fait son travail, qu'il n'y a plus de Vendée. J'ai écrasé, dit-il, les enfants sous les sabots des chevaux, massacré les femmes, je n'ai pas un prisonnier à me reprocher, j'ai tout exterminé.
Tout exterminé, ça c'est Westermann. Il y a deux autres noms qui sont souvent cités comme repoussoirs, c'est Turreau bien entendu, l'homme des colonnes infernales, et puis Carrier à Nantes.
Oui, alors Carrier commence son œuvre comme représentant en mission à Nantes fin octobre, exactement au moment de la bataille de Cholet. Et il rentrera à Paris au mois de janvier, non sans avoir noyé 3000 personnes, hein, au moyen de chaloupes qu'on s'aborde pour noyer les prisonniers dans la Loire, et puis en faisant fusiller par ailleurs 2500 autres Vendéens. Carrier rentre à Paris, mais au même moment, vous voyez que l'horreur n'en finit pas, Turreau arrive en Vendée et obtient la confirmation de Carnot lui-même au comité de salut public pour quadriller le territoire vendéen, celui de la Vendée militaire, de 12 colonnes qui doivent tout exterminer sur leur passage.
Vous-même, vous vous êtes penché, Geoffroy Caillet, sur la mémoire de tous ces combats, de toutes ces souffrances. Vous nous montrez à quel point le pays vendéen, au sens large, hein, encore une fois, ce n'est pas le département de la Vendée, c'est l'ancienne Vendée militaire et toute une partie du pays chouan, sont encore marqués par ces événements, comme si c'était une mémoire qui n'en finissait pas de se mainter, j'allais dire, ou de saigner. En fait, hein.
Et je pense que, de ce point de vue-là, la Vendée illustre bien ce que Furet écrivait en 94, François Furet, en disant que la République avait laissé la Vendée seule avec son malheur et qu'il était temps de rattraper le temps perdu. Et je crois que le temps perdu a été bien rattrapé en Vendée. En réalité, dès le début du 19e siècle, les premières chapelles sont construites en série pour se souvenir que les Vendéens ont péri ici par milliers. Et aujourd'hui encore, on se rend compte que la Vendée, c'est un territoire qui s'est entièrement façonné autour de sa mémoire, notamment la mémoire des guerres de Vendée, et qu'il en a tiré une très grande fécondité, puisque c'est un lieu où on se souvient, c'est un lieu où on étudie l'histoire et des réussites comme celle du Puy du Fou, mais aussi évidemment de l'historial de la Vendée, du mémorial de la Vendée et du tissu associatif vendéen qui est d'une richesse incroyable.
Beaucoup de petites associations qui entretiennent cette mémoire, qui dressent des listes, qui organisent des spectacles ou des processions. Enfin, c'est quand même très vivant, hein, tout ça. Hein.
Exactement. Moi, j'ai pu visiter le refuge de Grala, qui est un refuge au fond des bois, où les Vendéens de quelques villages alentours ont vécu pendant 6 mois pour échapper aux Bleus. Et aujourd'hui, la forêt a repris ses droits, mais cette association du refuge de Grala a reconstruit le village de Cabane et les conditions de vie qui étaient celles des Vendéens pendant ces 6 mois de 1794.
Est-ce que le fait qu'on ait longtemps voulu tuer cette mémoire-là n'a pas eu comme effet paradoxal, au contraire, de l'entretenir et de la maintenir? Car on a l'impression que c'est un terroir qui est plus à vif et plus tourné vers sa mémoire que bien d'autres terroirs français, en fait.
Oui, la Vendée est d'invention récente, hein, puisqu'elle est à peine créée quand la République commence à y envoyer ses troupes pour réprimer l'insurrection. Et en réalité, ce génocide a été fondateur pour la naissance même du territoire. C'est lui finalement qui, même dans le sang, même dans les larmes, a baptisé la Vendée. Hein. Et c'est vrai que aujourd'hui, la Vendée n'est pas tournée, on peut pas dire qu'elle soit tournée vers son passé dans le sens où elle le cultiverait de façon morbide, mais elle ne veut pas qu'on oublie ses morts. Et il faut reconnaître qu'elle a tiré une véritable force de ce culte de la mémoire, parce que une grande partie de son dynamisme, qu'on observe non seulement dans le monde associatif, mais aussi dans le monde entrepreneurial,
oui, d'ailleurs,
est liée à cette histoire.
Il était une fois dans l'Ouest, par le fer et par le feu, au pays de la mémoire. Ce sont les chapitres de ce grand document, de ce grand dossier, l'épopée des géants, consacrée donc à la Vendée militaire, de la répression au génocide, comme vous le dites dans ce numéro, avec d'autres sujets, bien entendu, abordés dans ce numéro. Notamment, vous revenez sur l'histoire de la Méduse, c'est évidemment.
Oui, ce sont les 200 ans du radeau de la Méduse.
La pauvre frégate avec le radeau de la Méduse pour le bicentenaire. Merci beaucoup, Geoffroy Caillet.
Merci à vous.
Et nous aurons l'occasion de reparler de toute façon de tous ces sujets. Je vous cite également de nouveau le titre de l'ouvrage d'Anne Bernet chez Perrin, c'est l'histoire générale de la chouannerie.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Avec pour vous, Franck, aujourd'hui, une question de Joseph sur le site europe1.fr. Joseph voudrait connaître les origines de l'agrégation d'histoire.
Alors, comme beaucoup des institutions françaises, c'est à Napoléon et à Bonaparte, on devrait dire, que tout ça est dû, bien entendu. Entre 1802 et 1808 sont institués le lycée, le doctorat, la licence, l'école normale, le baccalauréat, etc. Et c'est en 1806, donc sous l'Empire, que Napoléon crée l'université telle que nous la connaissons, avec son découpage disciplinaire, etc. Le problème, c'est qu'il faut encore recruter des enseignants. Et c'est ainsi que, assez vite, moins de deux ans plus tard, va paraître, en 1808, un décret impérial qui impose l'agrégation universitaire. Il y aura un concours de grammaire, de sciences et de belles-lettres afin de déterminer les meilleurs enseignants, les mieux propres à enseigner dans la nouvelle université. Il faut quand même attendre 1831 pour voir apparaître une agrégation d'histoire et de géographie, comme quoi les disciplines en question n'étaient pas encore tout à fait bien établies. L'agrégation s'ouvrira aux femmes en 1883 seulement. C'est que c'est un examen très difficile, l'agrégation. 28 heures d'écrit, 21 heures d'oral cumulées. Alors au programme cette année, le monde romain aux alentours de l'an 0, l'islam entre le 10e et le 15e siècle, ou encore le Moyen-Orient de 1876 à 1980, avis aux amateurs.